Je suis Françoise Cantil-Langlois, je suis chercheure associée. Je suis en charge des appareils du département de physique et aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors cette machine, c'est une machine de Holtz, appelée aussi roue de Holtz parfois. C'est une machine qui a été créée dans les années 1870 pour produire des hautes tensions. Elle a servi entre autres pendant la guerre de 14 pour alimenter les tubes à rayons X. C'est une machine qui est constituée de disques de verre. Elle a été utilisée pour alimenter les tubes de rayons X qui servaient à faire des radios pendant la guerre de 14 et que les médecins l'appelaient roue de Holtz. Alors ici, on a l'emplacement de la manivelle qui permettait de faire tourner la machine via ces courroies là. Et les disques tournants, il y a quatre disques, deux grands et deux petits, qui tournaient et par frottement se chargeaient électrostatiquement. Les charges sont récupérées jusqu'à ces parties-là, qui sont des éclateurs. Le problème, c'est d'amorcer la machine. Vous voyez ces pièces de carton là, avec une espèce de petite flèche au bout. Il fallait charger ces cartons-là avec, par exemple, une peau de chat ou une autre petite machine électrostatique, pour amorcer le système. Et une fois le système amorcé, on fait tourner la manivelle et la machine se charge et peut produire une haute tension. Elle a été remplacée ensuite par une machine que l'on trouve pratiquement dans tous les lycées, qui est la machine de Wimshurst, qui est d'un usage beaucoup plus pratique et qui permet facilement d'avoir des étincelles assez spectaculaires. À ces diapasons appartenaient à l'université dans la partie médecine parce qu'ils servaient sans doute aux médecins à étudier l'acoustique de leurs patients. Effectivement, on a toute une série de diapasons comme ça, accordés sur différentes fréquences. Alors on a deux modèles différents, ceux-là qui ont à l'extrémité des disques qui en fait étaient des miroirs qui servaient pour pouvoir enregistrer en envoyant un faisceau lumineux dessus pour faire des courbes, ou ceux-là qui ont une plume. Et la plume servait aussi à enregistrer sur un cylindre tournant, par exemple, la fréquence du diapason, et à côté, on enregistrait un autre appareil dont on pouvait comme ça mesurer la fréquence. Puisque au 19e siècle, on n'avait pas de fréquence-mètre. Et les seules personnes capables de déterminer des fréquences, c'était les musiciens. Et ensuite, on accordait les diapasons sur différentes fréquences pour avoir des appareils pour mesurer les fréquences. On voit ici la marque de Rudolf Koenig, qui était le spécialiste d'acoustique à Paris à la fin du 19e siècle. Alors là, on a un électromètre à cadran. C'est un appareil qui était conçu pour mesurer les très faibles charges électriques. Celui-là a la particularité d'avoir été construit à Lyon par les frères Trenta, qui étaient deux artisans italiens qui travaillaient pour l'Université de Lyon, entre autres pour la médecine, et qui ont été impliqués dans des mouvements anarchistes et entre autres dans les manifestations qu'il y a eu à Lyon à la fin du 19e siècle. Donc ils ont été arrêtés et emprisonnés. Et les médecins ont demandé leur libération parce que, je cite, « c'était les seuls ouvriers capables de leur faire de beaux appareils ». On ne sait pas trop quels autres appareils ils ont réalisés, mais celui-là est d'une très très belle facture. Il s'agit d'un volume en laiton qui était fait pour étudier la répartition des charges en fonction de la forme de l'objet. Celui-ci, qui est en forme de ballon de rugby peut-être, était équipé de petits pendules. On avait toute une série de petits pendules. On voit l'endroit où ils étaient collés, là, avec des petites balles de moelle de sureau. Et quand on chargeait l'objet à l'aide d'une machine électrostatique, on pouvait voir les pendules qui s'inclinaient plus ou moins violemment selon l'importance de la charge. On pouvait par exemple constater qu'à l'extrémité, on avait éventuellement une charge plus importante qu'au centre. Donc ça, c'est un phosphoroscope de Becquerel qui a été inventé par Edmond Becquerel. Edmond Becquerel, c'est le moins connu de la génération des Becquerel. Mais il a beaucoup travaillé donc sur la phosphorescence. Et son but, c'était d'étudier la durée de cette phosphorescence. Pour ça, il a inventé cet appareil qui est en fait est constitué d'un boîtier avec sur les deux faces des fenêtres qui ont la même forme mais qui ne sont pas face à face. Ce qui fait que la lumière ne peut pas traverser complètement l'appareil. D'un côté, on éclaire pour éclairer le matériau phosphorescent et de l'autre côté, on va regarder. Et grâce à un dispositif mécanique de démultiplication, on peut voir en fonction du nombre de fois où on va voir passer la lumière, on peut déterminer la durée de vie de la phosphorescence. Une durée de vie qui est de quelques millisecondes. Là, on a des matériaux fluorescents. Si on pouvait les éclairer en lumière ultraviolette, on verrait qu'ils ont des jolies couleurs. Et celui de gauche, c'est tout simplement de la fluorescéine. Alors là, on a une soufflerie d'un modèle que l'on trouvait dans beaucoup de lycées, parce qu'au XIXe siècle, ça permettait d'introduire l'étude des ondes. C'est fabriqué sur le même modèle que les orgues que faisait M. Cavaillé-Coll au XIXe siècle. On a une soufflerie qu'on actionnait avec une pédale qui permet d'envoyer de l'air dans les différents tuyaux. Ces tuyaux sont faits de façon à ce qu'on puisse étudier les ondes. Alors par exemple, celui-là, il a une vitre devant. On pouvait descendre dans le tube une petite nacelle avec dedans de la poudre de lycopode, très légère, et on voyait qu'au niveau des ventres de l'onde, la poudre de lycopode oscillait violemment, alors qu'au niveau des nœuds, elle ne bougeait pas. On a aussi d'autres modèles où on avait des petites plaquettes pour pouvoir réduire la longueur du tuyau à volonté. On a des tuyaux de toutes les tailles, puisqu'on en a un très très grand là en bas, qui permettait d'avoir un son très très bas. Il existe aussi des tuyaux en métal, des tuyaux de formes diverses qui permettaient de faire toutes ces études sur les ondes. Alors cet appareil assez complexe, c'est un résonateur de Helmholtz ou de Koenig, suivant les gens, Helmholtz étant le physicien et le physiologiste qui voulait s'en servir, et Koenig, la personne qui l'a fabriqué. Il est constitué de trois parties, des résonateurs qui sont des sphères qui vont résonner pour une fréquence donnée, des flammes qui étaient alimentées à l'époque par du gaz de ville avec des capsules manométriques, c'est-à-dire des capsules qui ont une petite paroi très souple qui va vibrer à la fréquence du résonateur et la flamme va osciller en hauteur à la même fréquence. Pour bien visualiser l'oscillation des flammes, on utilise un miroir tournant qui, grâce à la persistance rétinienne, permet de voir la flamme osciller et les hauteurs différentes de flamme. Cet appareil était utilisé par Helmholtz pour étudier la voix. Alors il demandait à des chanteurs de chanter devant ces résonateurs et il permettait d'enregistrer, entre guillemets, ce qu'ils voyaient. Les enregistrements au début étaient faits par des gens qui dessinaient ce qu'ils voyaient sur le miroir tournant et ensuite il y a eu des photographies. Donc là on a une balance de Curie-Chenevaux. Curie, il s'agit de Pierre Curie qui a mis au point cette balance au début du XXe siècle pour mesurer la susceptibilité magnétique des matériaux, c'est-à-dire une des caractéristiques magnétiques des matériaux. On peut voir là l'aimant dans le dispositif et puis un crochet qui permettait de suspendre le matériau à étudier. Cette balance est exactement celle qui est décrite dans l'article publié dans le journal de physique théorique en 1903 et qui s'intitule « Sur un appareil pour la détermination des constantes magnétiques », signé Pierre Curie et M. Chenevaux. Alors là, on a un galvanomètre de Bourbouze Un galvanomètre, c'est un appareil du type ampèremètre, mais qui permet de mesurer des courants très très faibles. Donc c'est un appareil très sensible. Celui-là était destiné à être utilisé dans les amphithéâtres. C'est pour ça que c'est un grand format avec un cadran très visible de loin. Il est constitué simplement d'une bobine de fil dans laquelle passe le courant. Et sous l'effet du courant, on a une aiguille qui va osciller et indiquer une indication numérique du courant. Là, on a un objet qui est peut-être unique. Il est lourd. On peut le suspendre. On peut l'ouvrir. Et quand on l'a ouvert, on voit écrit « thermomètre de Duclos ». Il s'agit de Monsieur Émile Duclos, qui a été un collaborateur de Pasteur, qui a été professeur pendant 3 ans à l'Université de Lyon, où il a fabriqué ce thermomètre. Très original, qui est constitué d'une série de petits tubes. Vous voyez les petits tubes remplis d'un liquide coloré. Tous ces petits tubes sont numérotés et le liquide qui est à l'intérieur est un mélange de plusieurs produits qui ont la particularité de se séparer à une température donnée. La surface de séparation se place toujours au milieu du petit tube, ce qui permet, quand on place le thermomètre dans un milieu, d'avoir une série de petits tubes qui sont homogènes en couleur et une série, à partir d'une certaine température, qui sont séparés. Pour bien voir la séparation, il y a eu un petit peu d'encre rose dans le liquide. On a une série de petits tubes de rechange et on peut voir que les tubes sont coincés avec du liège et que, en fait, cette petite pièce-là, c'est un tire-bouchon pour sortir les morceaux de liège si on a besoin de changer un des petits tubes de mesure. Le principe du thermomètre repose sur des phénomènes de mélange ternaire assez complexes et M. Duclos dit que c'est quelque chose qui pouvait être utilisé par les jardiniers, par exemple. C'est assez peu précis, mais ça indique la température. Celui-là permet de mesurer des températures entre moins 5 et 25 degrés à peu près. Alors, Monsieur Émile Duclos a travaillé avec Pasteur, déjà quand il était étudiant à l'École normale supérieure, et puis ensuite en Auvergne sur la fabrication des fromages, et puis sur les magnagneries, c'est-à-dire les élevages de vers à soie, plein d'endroits où on avait besoin de mesurer la température. Et Émile Duclos a pris la succession de Pasteur à la présidence de l'Institut Pasteur, qui ne s'appelait pas encore Institut Pasteur, à la mort de Pasteur. Alors là, on a une machine d'Atwood. C'est une machine inventée par un Anglais, M. Atwood, pour diffuser les lois de Newton. Le problème, c'est que c'est une étude de la chute libre et que la chute libre, ça se fait sur une hauteur raisonnable, trop rapidement pour pouvoir être mesurée. À l'époque, on n'avait pas de pendule qui permette de mesurer des choses de l'ordre de la seconde. La seule chose dont on disposait, c'était des pendules à balancier. Or, une chute de cette hauteur-là, ça se fait en moins de 2 secondes. Donc, il fallait inventer quelque chose qui permette de ralentir la course de chute. Pour ça, M. Atwood a utilisé un système de poulies. On a tout en haut, là, 5 poulies. Alors, pourquoi 5 poulies ? Parce que la plus grande sur laquelle passe le fil repose sur un axe qui est de chaque côté sur 2 poulies, de façon à réduire les frottements. Comme ça, on a des frottements de roulement plutôt que d'avoir des frottements de glissement. C'est la même chose qu'une trottinette, c'est plus facile que de marcher à pied. Quand on est à l'équilibre, on a la même masse de chaque côté du fil et ça ne bouge pas. Si on met une toute petite masse d'un côté, le système va se mettre très lentement en mouvement, beaucoup plus lentement que pour une chute normale. Donc cela, ça va permettre d'étudier la chute, qui va être une chute accélérée. Et pour pouvoir mesurer la vitesse de cette chute, l'astuce de M. Atwood, ça a été de disposer ce petit dispositif-là qui permet d'arrêter le mobile à un instant donné. Et ensuite, le mouvement se poursuit à vitesse constante. Et on pouvait mesurer ensuite la vitesse sur la hauteur restante, en mesurant le temps et la hauteur. Le problème, c'est qu'il fallait pouvoir mesurer le temps. Et pour ça, il fallait ajuster le dispositif de façon à savoir qu'à tel moment, ça allait s'arrêter et à tel autre moment, arriver en bas pendant une seconde, deux secondes. Et pour ça, on comptait les balancements d'un grand pendule qui était fixé sur le côté de la machine. Après, on a eu des objets un peu plus sophistiqués pour mesurer le temps, à savoir des métronomes, quand le métronome a été inventé au milieu du 19e siècle. Et puis ensuite, cette machine a été introduite dans les lycées dès les premiers programmes de lycée, c'est-à-dire dès 1803. Il était prévu une machine d'Atwood dans les appareils de lycée. Au début, c'était cette belle machine qui coûtait très très cher. Ensuite, on a eu une machine beaucoup plus simple avec une simple poulie en haut et non pas cinq poulies. Et puis ensuite, au cours des siècle suivant, on a eu des machines beaucoup plus simples qui étaient simplement une poulie accrochée au mur et un dispositif de câble de chaque côté. Et puis après, il y a eu des enregistrements divers pour mesurer les durées. À la fin, ça s'est terminé par des enregistrements photographiques ou même des capteurs qui permettaient de détecter le passage du mobile à différents instants. Le deuxième modèle de cette machine a été envoyé à Volta, qui en avait commandé une parce qu'il en avait entendu parler. Dans les années 1960, on avait encore beaucoup d'exercices basés sur la machine d'Atwood.